On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode avec, du coup, une nouvelle invitée qui est Nathalie Grimaud, consultante en marketing et digital, qui va nous parler de son expérience entrepreneuriale, toujours sur la thématique des 5 premières fois, où on va retracer un petit peu son parcours justement d'entrepreneur pour qu'elle nous livre un petit peu ses expériences. Nathalie, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation et je te laisse te présenter.
Merci Alexandre de m'avoir invitée, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc comme tu le disais, je suis Nathalie Grimaud-Morvillet, je suis consultante en marketing digital indépendante et j'ai aussi cofondé dans un premier temps puis fondé La Tribu Digitale, qui est un organisme de formation à destination des parents pour leur permettre de mieux concilier vie pro et vie perso grâce au métier du marketing digital.
Super projet, merci pour la présentation. Organisme de formation, bon, on se doute bien que ce n'est pas évident à mettre en place, même si c'est un beau projet. On va y revenir tout à l'heure où tu vas nous donner justement plus de détails. On va aborder du coup ta première fois dans cet épisode. C'est du coup la première fois où tu as travaillé de chez toi avec un nouveau rythme de travail. Bon, avant, tu avais une expérience professionnelle, mais là, c'est complètement différent. Et en plus, du coup, tu travailles pour la première fois avec ton mari. Si tu peux nous en dire un peu plus.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, nous, dans le milieu professionnel, mais on ne travaillait pas directement ensemble lorsqu'on était tous les deux salariés. Puis mon mari, en 2014, pour justement passer plus de temps avec mes enfants, a décidé de créer son entreprise et donc son agence digitale, que j'ai rejoint en 2017. Donc c'était la première fois où vraiment on travaillait main dans la main. Alors on a des compétences qui sont complémentaires, puisque lui est plutôt sur la partie technique, développement de sites web, d'applications, et moi je suis plutôt sur la partie marketing. Mais les premiers temps, il a fallu qu'on s'habitue finalement l'un à l'autre, notamment parce que moi, je suis toujours dans l'anticipation à 300%. J'imagine déjà ce qui va se passer dans 10 ans. Alors que lui, il est dans l'instant immédiat. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur des clients, du coup, moi, j'étais hyper stressée au début parce que il travaillait toujours pour moi à la dernière minute, alors que moi, j'avais l'habitude d'anticiper. Donc, il a fallu les premiers temps qu'on puisse qu'on puisse se coordonner. Et même encore maintenant, on essaye de se coordonner au mieux. Ce n'est pas forcément évident tous les jours.
Donc, il faut s'adapter à l'autre, c'est ce que tu es en train de dire. Surtout, bon, déjà, quand on travaille avec des collaborateurs, il faut essayer de s'adapter aussi. Mais là, on se dit, vie pro, vie perso, c'est mélangé. Tu dois t'adapter à la manière dont travaille ton mari. Parce que vivre avec une personne, être en couple, c'est un peu différent après quand on travaille ensemble. Est-ce que tu conseillerais des gens qui nous écoutent justement sur l'association avec son conjoint, sa conjointe, son mari, sa femme, ou c'est des choses que tu aurais plutôt tendance à dire attention, il y a beaucoup de préparation à avoir là-dessus. C'est quoi ton positionnement par rapport à ça?
Je dirais, il n'y a pas une manière de réfléchir ou une manière de faire. Ça dépend déjà avant tout pour moi des caractères. Alors c'est vrai que nous, on a quand même des caractères qui s'associent plutôt bien, à la fois dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Et ensuite, je dirais pour chacun, que ce soit le mari ou la femme, c'est aussi du lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, si je prends mon exemple personnel, moi, je voulais que mon mari fasse comme moi. Mais en réalité, c'est pas moi, c'est mon mari. Donc, il a sa propre manière de faire. L'objectif étant que le résultat soit à la hauteur et pas finalement le chemin qu'on emprunte pour pouvoir y aller. Donc, je pense que si on veut travailler avec son mari, sa femme ou même son frère, sa cousine, enfin en tout cas des membres qui sont proches, son meilleur ami, peu importe, c'est vraiment en fait de lâcher prise sur la manière dont la personne va faire les choses et d'identifier le résultat. Est-ce que le résultat est présent ou pas.
Intéressant. Ton analyse par rapport à ça, du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 2017, donc 6 ans maintenant, c'est ça?
Exactement. On est dans notre sixième, septième année, tout à
donc,
fait.
Donc, si on est à 6 ans, 6 années, ça veut quand même dire que ça fonctionne malgré justement bon, des façons de faire différentes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette complémentarité. Et 6 ans, ça veut dire que ça roule, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau du rythme de travail, on a dû aussi adapter notre rythme de travail. Nous, on est parents de 4 enfants. Mmh. Donc, on a fait ce choix de travailler à la maison pour pouvoir nous occuper aussi de nos enfants. Mais on a un rythme qui va être un petit peu atypique.
Ouais.
En tout cas, au sens où l'entend la société. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur du lundi, vendredi, 9h-18h.
Mmh. Okay. Vous vous adaptez en fonction de vos priorités aussi, parce que 4 enfants, ça prend du temps, hein, c'est de la ressource. Déjà, un seul enfant, ça prend énormément de temps. Ensuite, s'adapter à l'autre également. Donc, vous avez mis en place des choses pour justement avoir cet équilibre vie perso, vie pro. Et bravo pour ça, parce que je pense que c'est pas évident, évident tous les jours. On va parler du coup de ce deuxième, lancement, mais cette deuxième première fois où tu nous parles justement de ton premier lancement en 2017. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Exactement. Alors, c'est vrai que j'ai eu un faux lancement hein, en 2011, puisque j'ai créé un petit statut d'auto-entreprise avec deux clients, mais j'étais salariée entre 2011 et 2017. Et puis, malheureusement, moi, pour mes 4 grossesses ou 4 retours de congé maternité, j'ai subi de la discrimination en entreprise. Donc, ma dernière grossesse, après de la discrimination à nouveau, je me suis dit, en fait, je ne veux plus retourner en entreprise, même si j'avais pas l'intention de faire de nouveaux enfants, mais je me suis dit, c'est pas possible encore, en quasiment 2020, qu'on soit comme ça à penser qu'une femme, si elle a des enfants, elle ne peut pas travailler, ou alors qu'il faut qu'elle travaille à 100% sans penser à ses enfants. Donc, c'est là où j'ai rejoint, moi, mon mari, qui avait déjà fait le chemin entrepreneurial avant moi, en me disant, je veux travailler de manière autonome, je veux travailler pour moi, à mon rythme, et je veux aussi gérer mes enfants. Et en 2017, du coup, je me suis lancée à 100%, ce qui n'était pas le cas avant, puisque j'avais que 2 petits clients que je gérais en plus de mon statut de salarié.
Okay.
Et au début, j'ai eu, je dirais comme peut-être la majorité ou peut-être tous les auditeurs qui vont écouter, énormément de questionnements et de doutes en me disant, est-ce que je vais être capable d'en vivre? Est-ce que je vais être capable de facturer suffisamment pour pouvoir me sortir un salaire à la fin du mois? Et puis, on est tous les deux entrepreneurs. Donc, si jamais il se passe quelque chose, il n'y en a pas un qui est salarié et qui va avoir son revenu tous les mois pour, en tout cas, que ce soit plus stable d'un point de vue financier au niveau de la famille. Donc, tout ça, effectivement, ça m'a fait avoir énormément de peur en me disant, est-ce que je fais le bon choix? Et finalement, aujourd'hui, je me dis, oui, j'ai fait le bon choix. Et si j'avais su, je l'aurais même fait avant. Mais
ah oui.
Voilà.
Aujourd'hui, avec du recul, avec de l'expérience, tu sais justement bon, par quoi t'as traversé aussi et que c'est possible. Mais quand on démarre, c'est bien que tu parles de ça au tout début. C'est normal qu'on ait ces inquiétudes, ces doutes. On les a constamment, hein, de toute façon, quand on est entrepreneur, mais encore plus vraiment au démarrage parce que il y a peut-être aussi le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais être utile? Est-ce que je vais vraiment apporter de la valeur à mes clients? C'est pas toujours évident. Puis encore plus quand on a des enfants, encore plus quand on a une vie de famille. Donc il y a une vraie préparation à faire et à avoir quand on se lance et avant de se lancer, en tout cas. Merci pour ça du coup, et si vous aimez ce genre de contenu et ce qu'on est en train de se dire avec Nathalie, n'hésitez pas du coup à mettre sur la plateforme où vous écoutez le podcast 5 étoiles, un petit commentaire, comme ça fera remonter un petit peu l'épisode. Et puis si vous aimez surtout ce type d'interview, c'est pour donner de la force et qu'il y en ait un petit peu d'autres. On passe du coup à ta troisième première fois, Nathalie. Alors, le premier contrôle de la DRITS, tu vas nous en parler. Là, tout de suite, quand je dis ça, sauf ceux qui sont un peu spécialisés et qui connaissent comment fonctionnent les organismes de formation, savent de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la DRITS?
Alors oui, alors le premier, et j'espère l'unique, en tout cas avant longtemps, mais la DRITS, donc, c'est un organisme administratif hein, français qui est en charge de contrôler et vérifier que les organismes de formation réalisent bien des formations sur des budgets qui peuvent être des budgets de l'État. Alors, par exemple, des prises en charge Pôle emploi, des prises en charge depuis plus récemment par le CPF, par la région aussi, ou même par les entreprises. Donc, ils sont là pour vérifier, effectivement, que les fonds de la formation sont bien utilisés à des fins de formation.
Ok, Très intéressant. Et du coup, comment s'est passé ce contrôle qui j'imagine, était un petit peu prenant, stressant. Comment tu as vécu de l'intérieur, au niveau émotionnel, ce contrôle de la DRITS?
Alors, ce contrôle de la DRITS, ça a été très difficile. Les résultats ont été aussi très négatifs. Pour faire un petit résumé, donc c'était l'année dernière, en 2022, que le contrôle a eu lieu. Donc, on reçoit un courrier lettre recommandée, très officiel. On a 15 jours pour se préparer à ce contrôle. Et puis, il faut savoir que nous, on travaille depuis chez nous. Nos sièges sociaux, que ce soit pour l'agence digitale ou que ce soit pour la tribu digitale, sont chez nous. Donc, notre siège social est à notre domicile. Et donc, la DRITS nous dit, on va venir vous contrôler dans vos locaux.
Oui,
donc,
chez vous, quoi.
Chez nous, ouais. Sachant qu'on a un rythme, comme je le disais, qui est particulier pour la société française, puisqu'on va chercher tous les jours nos enfants à 16h30 à l'école. Mmh. Le mercredi, ils sont avec nous. Lorsqu'on doit les emmener aux activités sportives, culturelles ou autres, on les emmène et puis on retravaille le soir, on travaille des fois le week-end, etc. Donc, on a un rythme qui, en tout cas pour l'administration française, était vraiment très bizarre. Donc, les deux contrôleuses qui sont arrivées chez nous déjà avec des a priori du type « mais ceux-là, ils sont en train d'arnaquer les budgets de l'administration française sur la formation, c'est pas possible qu'ils travaillent de chez eux ». Et donc là, le contrôle déjà avait mal débuté, je dirais, parce qu'on n'avait pas un siège social avec des vrais employés, avec des locaux, des salles de réunion, etc.
Pourtant, il n'y a rien de réglementaire qui dit que vous devez avoir des locaux, ou justement, il y a quelque chose qui vous empêche de travailler de chez vous? Non, rien.
Ah, pas du tout. Okay. Absolument rien. Aucune loi qui nous obligerait à avoir des locaux. Mais c'est vrai que l'administration française travaille encore. Ouais. Le télétravail n'est pas du tout la norme. Mmh. Et les fonctionnaires travaillent encore énormément dans des locaux. Donc, imaginer des personnes travailler de chez soi, je pense que c'est un autre siècle, un autre monde pour eux.
C'est sûr, le temps que ça rentre, justement, qu'ils se fassent un petit peu à l'idée, ça prend du temps.
Alors du coup, le contrôle, effectivement, les deux dames sont arrivées, ont contrôlé, nous ont appelé par moment. Alors nous, on était restés à l'étage et puis elle était dans notre salon. Donc toute la journée, on était un peu comme dans une prison, on n'osait pas trop parler, on n'osait pas aller se faire un café. Enfin voilà, on était vraiment cloîtrés, je dirais, dans notre bureau. Et de temps en temps, elle nous appelait pour poser des questions. Et puis, au bout de 15 jours ou un mois, je ne sais plus, on a reçu la décision donc de la DRITS, sachant que ça contrôlait toutes les formations qu'on avait fait passer sur le CPF. Il faut savoir qu'en 2020, j'avais fait rentrer, donc j'avais appelé la Caisse des dépôts pour demander si la formation que je proposais, qui s'appelait « Devenir Community Manager en freelance », pouvait être intégrée en fait au CPF dans la rubrique « Création d'entreprise ». Et la personne que j'avais eue de la Caisse des dépôts m'avait dit: tant que à la fin, vos stagiaires créent une entreprise, il n'y a pas de souci. Et donc, moi, c'était vraiment l'objectif, puisqu'on les formait à un métier du marketing digital pour qu'ensuite, chaque stagiaire puisse lancer son activité et être indépendante et avoir des clients. Donc, le contrôle avait lieu sur cette période-là de 2020. Et au bout donc du mois ou des 15 jours, on a une décision de la DRITS qui nous dit: vous n'êtes pas une entreprise de création, vous n'êtes pas une formation de création d'entreprise. Donc, on vous demande de redonner toutes les sommes que vous avez perçues au titre de cette formation. Voilà, donc là, tu imagines bien que les sommes, on ne les a pas mis dans nos poches pour partir aux îles Caïmans et aller se dorer la pilule aux Maldives ou je ne sais où. Les sommes ont été investies, on a beaucoup de prestataires qui travaillent chez nous, on a de la publicité, bien évidemment, on a aussi des charges liées aux lois françaises, comme le RGPD ou autre. Donc forcément, on a investi ces sommes pour pouvoir faire fonctionner l'activité tout simplement. Mmh. Donc là, on se dit, oulala, on est vraiment mal, parce que les sommes, elles sont pas rentrées chez nous. Enfin, elles sont rentrées, mais elles sont ressorties pour faire vivre l'activité. Donc, on prend contact avec une avocate spécialisée dans la formation, justement. Donc, ça fait 7 ou 8 ans qu'elle travaille dans la formation. Elle nous explique un peu tout le process. Elle nous explique qu'on va réexpliquer, apporter des preuves supplémentaires. Donc là, on cherche plein de preuves. On demande des témoignages à nos stagiaires qui sont On a beaucoup de stagiaires qui nous disent « mais c'est inadmissible, on a créé notre société grâce à toi », donc ils nous font des témoignages. On demande également en fait les numéros de SIRET ou de SIREN, en tout cas les preuves comme quoi les sociétés ont été créées. Et là, on apporte énormément de preuves en fait à la DRITS en leur disant « regardez, on a 42% des stagiaires qui ont créé leur société et qui sont en fait toujours en activité aujourd'hui, 2 ans et demi après ». Et on a, je crois qu'on avait 20% des stagiaires, 19 ou 20% des stagiaires qui nous avaient fait des attestations sur le CERFA officiel d'attestation. Je ne sais pas si tu le connais, c'est celui où on écrit « je sais que cette attestation peut être soumise, enfin peut être produite en justice et je m'engage à dire la vérité, sinon amende potentielle, etc. Bon. » Et là, la DRITS nous répond que les attestations ne sont pas valables parce qu'elles sont faites sur des CERFA officiels et que seule la police ou la gendarmerie sont habilitées à demander des témoignages sur ce type de CERFA.
Ok, donc ça cherche la petite bête, quoi.
Voilà. Et puis, un des directeurs de la DRITS, puisqu'il nous reçoit en fait en audition avec notre avocate, où on arrive avec toutes ses preuves, nous dit « mais freelance, ça ne veut pas dire création d'entreprise. »
Okay.
Donc, notre avocate est obligée quand même d'aller chercher la définition dans le Larousse en lui disant « en fait, si, regardez, la définition, c'est créer son entreprise en tant qu'indépendant pour travailler pour des clients. »
Ce que tu es en train de dire par rapport à tout ça, c'est une mésaventure. Bon, tu vas nous dire un petit peu la finalité des choses, mais c'est que toi, tu te lances, tu es à ton compte. Alors, il y a plusieurs appellations pour dire qu'on est à son compte. Chef d'entreprise, solopreneur, freelance, c'est des statuts qui sont différents, mais en tout cas, l'envie d'aller créer, de développer quelque chose est la même. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que pour des organismes qui sont aussi spécialisés par rapport à votre domaine à vous, c'est pas toujours clair, justement, votre positionnement.
Et du coup, pour l'administration, moi, j'ai été choquée qu'en français, dans l'administration, ne sache pas que freelance, oui, c'est de la création d'entreprise, effectivement.
Oui, donc il y a quand même un vrai, travail à faire à ce niveau-là. Non, c'est pas à nous d'éduquer les organismes de formation, l'administratif non plus. Je pense qu'il y a un peu de retard encore à ce niveau-là, parce que ça évolue beaucoup, le marché, justement, où de plus en plus de personnes se lanceront à leur compte. Il faut aussi que les administrations puissent se mettre à niveau par rapport à ça. Et ce qu'on voit aussi dans ton parcours, dans ton histoire, peu importe que tu travailles de chez toi ou que tu aies tes propres locaux, c'est vous avez des stagiaires, vous travaillez, vous vous investissez, et d'un seul coup, il peut y avoir une mésaventure, donc ça peut être une incompréhension, comme ça a été le cas du coup avec ce contrôle de la DRITS qui pensait que vous étiez entre guillemets des arnaqueurs par rapport à ce que vous étiez en train de mettre en place. Mais ça peut être un contrôle d'URSSAF qui se passe mal, ça peut être pas mal de choses qui peuvent un peu faire pencher justement le business du côté obscur, entre guillemets. Et c'est important de voir ça dans ton témoignage, que tout n'est pas acquis. Tu as beau avoir des clients, tu as beau avoir de l'investissement, il peut se passer des choses qui font que derrière, il y a une remise en cause sur l'argent qui a déjà été donné, versé. Donc, il faut toujours, je pense, avoir un peu de recul par rapport à ça, prévoir aussi, d'où ce travail d'anticipation, de mettre un petit peu aussi de côté, aussi bien sur la partie professionnelle que personnelle. Donc, ton témoignage est vraiment important à ce niveau. Est-ce que tu voulais conclure justement sur ce contrôle ?
Et du coup, ce contrôle aujourd'hui, on est parti en justice. Parce que, bien évidemment, donc c'est la DRITS qui fait le contrôle. Ensuite, nous, on envoie des preuves complémentaires pour justifier que oui, on est bien une formation de création d'entreprise. Mais finalement, c'est celui qui a contrôlé qui prend la décision finale. Donc, autant te dire qu'ils ne sont pas revenus sur leur décision initiale, sachant qu'ensuite, on apprend qu'il y a des directives du gouvernement d'aller récupérer un maximum d'argent parce que le CPF coûte trop cher, etc. Donc, après, il y a des enjeux politiques qui nous dépassent complètement, nous, on va dire, petits entrepreneurs. Et on est aujourd'hui en procès contre l'État pour abus de pouvoir. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, en tout cas, les lois, la loi à l'origine et puis ensuite le décret de 2022 montrent bien qu'on pouvait en 2020 former à une compétence pour ensuite que la personne se lance à son compte et donc crée son entreprise. Ça a évolué qu'en 2022, le 27 avril, je crois, 2022, si je ne dis pas de bêtises, avec le dernier décret qui est sorti. Mais malgré ça, en fait, on est obligé d'aller jusqu'en justice pour essayer de faire valoir notre point de vue, parce que la DRITS n'a absolument pas changé, malgré toutes les preuves qu'on leur a apportées d'opinion.
Affaire toujours en cours, affaire à suivre. Tu nous diras un petit peu justement ce qu'il en est. On croise les doigts. C'est un petit peu dommage, je trouve, de toujours taper sur les mêmes, c'est-à-dire les petits entrepreneurs et ceux qui se battent au quotidien, qui ont des sueurs froides, qui dorment pas la nuit, qui vraiment font en tout cas le nécessaire pour faire tourner l'entreprise et parfois même tourner sa propre famille ou encore les collaborateurs avec qui on travaille. Donc j'espère qu'il y aura un dénouement, on va dire, positif à ce niveau-là. Et c'est une mésaventure qui peut toucher en tout cas tout le monde. Alors pas le contrôle de la DRITS parce que tout le monde n'est pas organisme de formation, mais en tout cas, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses, des organismes, des administrations qui peuvent justement parfois un petit peu plomber ça. Donc il faut toujours avoir cette notion de prévention et cette notion de précaution, d'anticiper. Je parle d'argent, mais je parle aussi de pas tout, en tout cas, reposer sur son business pour justement éviter un petit peu ce genre de déconvenues. Parce que là, vous êtes en procès, donc j'imagine qu'il y a des frais aussi qui sont attribués dedans. Donc, pas évident comme histoire, mais affaire à suivre. Et merci en tout cas d'avoir été transparente là-dessus. Et on espère, encore une fois, un bon dénouement. On arrive du coup à cette quatrième première fois où tu vas nous parler cette fois-ci de ton premier client, mais pas le premier client que tu as eu, le premier client plutôt où tu as dit stop, c'est-à-dire que c'est toi-même qui as décidé d'arrêter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Alors exactement, ça me semble très intéressant et c'est quelque chose que je partage énormément avec ma communauté. Donc du coup, pour le coup, c'est pas un client de la Tribu Digitale, c'est un client de mon agence. Donc en 2017, je me lance, hein, comme je le dis, à 100% avec le stress de pouvoir gagner suffisamment, de pouvoir faire vivre ma famille, etc. Et puis j'ai, de par le bouche à oreille, j'ai un client qui arrive, un plombier, qui est par ailleurs très gentil, qui en plus me demande plein de prestations différentes, donc ça me fait rentrer en revenu, en tout cas une facturation confortable. Mais ce client, en fait, il m'appelle tous les jours. Absolument, tous les jours, et c'est pas pour 5 minutes, hein. Quand je suis au téléphone avec lui, j'en ai pour 3 quarts d'heure, 1 heure, etc.
Et c'est des appels qui sont pas prévus, on est d'accord.
Et c'est des appels qui sont pas prévus, parce que moi je vends ma prestation, donc en marketing digital, il y avait aussi une prestation de création de site que faisait mon mari, mais c'est pas du tout prévu qu'on s'appelle tous les jours, c'était prévu qu'on s'appelle au début une fois par semaine, et ensuite à terme une fois par mois, et ensuite des échanges par mail. Donc là, tous les jours, et tous les jours au moins 1 heure, des fois 1 heure et demie. Et donc, j'ai mon mari qui me dit « Mais c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Il te plombe ton énergie. Il est très gentil, mais il venait me parler de tous ses problèmes, justement, d'entrepreneurs, de concurrence, etc. » Et il me dit, mon mari me dit « Mais quand tu es avec lui, du coup, tu peux pas travailler pour tes autres clients, tu peux pas développer ton activité et à terme, tu vas y perdre. » Et moi, à chaque fois, je lui dis « Oui, mais regarde, la facturation, elle est quand même très intéressante, etc. Si je le perds, ça va nous faire un trou dans la trésorerie. » Donc lui, il me dit « Il faut que tu arrêtes de travailler avec ce client. » Et moi, j'ai cette réticence de me dire « Si j'arrête de travailler avec ce client, est-ce que je vais retrouver finalement un client équivalent ou un chiffre d'affaires équivalent à moyen, à court ou moyen terme. » Et puis, je préviens, donc là, on doit être au mois de février ou de mars, je préviens mon client que j'ai pris une semaine de vacances au ski avec mes enfants et mon mari. Et donc, que j'ai tout anticipé pour que...
Je crains le pire, mais vas-y, je te laisse finir.
Donc, j'ai tout anticipé pour que ces campagnes se passent bien, etc. Que de toute manière, le soir, je vérifierai qu'il n'y a pas de souci, qu'on est sur le rythme habituel. Mais donc, je le préviens que je ne suis pas disponible. Il me dit oui, pas de souci. Et puis, le premier jour, on est à peine en train de faire la première descente
quand
avec les deux grands.
Quand tu es sur la piste noire, hein, c'est ça, hein, quand tu es sur la piste
noire.
Oui,
la piste bleue plutôt. Avec
ah, bleu,
les.
Okay.
J'étais avec mes deux petits loulous, enfin mes deux grands, mais qui étaient petits à l'époque. Et donc, on descend la piste et puis, j'ai mon téléphone qui vibre. Il vibre. Donc, au début, bon, je me dis, bon, ça doit être un appel. Mais voilà. Et puis, en fait, il ne s'arrête pas de vibrer. Donc, au bout d'un moment, je m'arrête en me disant, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui me rappelle, donc qui veut que je décroche, en fait. Et là, je vois que c'est mon client. Donc, je me dis, il y a peut-être une urgence, le site est peut-être tombé, il y a peut-être un problème qui fait qu'il m'appelle comme ça. Donc, je le rappelle sur la piste, hein, je me mets sur le côté, mes enfants étaient descendus, ils m'attendaient en bas. Et là, le client commence à me parler. Je lui dis, mais je suis au ski, je suis sur une piste, est-ce qu'il y a une urgence? Et là, il commence à me raconter à nouveau sa vie, ses problèmes avec ses concurrents, ses problèmes avec ses clients, etc. Et là, je me dis, en fait, c'est pas possible. Je suis en train de parler avec mon client, ça fait 20 minutes, une demi-heure, j'ai mes enfants qui attendent en bas. Et il me raconte sa vie, c'est pas pour un problème vraiment.
Oui, c'est pas quelque chose à résoudre de manière immédiate.
Résoudre immédiatement, là j'aurais compris sans aucun problème, je serais rentrée ou j'aurais appelé mon mari qui était pas sur les pistes avec nous, mais pas du tout. Et donc là, je prends la décision de me séparer, en fait, de mon client.
Là, c'était donc, le déclic, en fait.
Ça a été le déclic. Ouais. Et puis même mes enfants, à la fin, quand je suis descendue, ils m'ont dit mais tu faisais quoi, maman?
C'est clair. Non,
mais... Donc, je me dis, c'est pas possible. Et là, je le rappelle. Donc, une fois que je suis rentrée du ski, je le rappelle, je lui dis, écoutez, monsieur le client, en fait, la manière dont on travaille, on peut pas continuer comme ça. Donc, soit je vous facture tout le temps passé au téléphone, mais ça va vous faire une facturation de folie, en fait, hein, parce que quelque part, je suis pas son psy à ce client. Ou alors, je vous laisse trouver quelqu'un pour me remplacer. Et quand vous l'avez trouvé, on arrête la prestation. Donc, j'ai pas arrêté du jour au lendemain parce qu'on sait jamais, hein, il peut me recommander, etc. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que c'était pas possible et j'ai arrêté. Et c'est vrai que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que sinon, je pense qu'aujourd'hui, je passerai 8 heures par jour au téléphone avec ce client.
Il est magnifique ton partage parce que justement, ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'on a tendance à accepter un petit peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, comme client. Je m'explique quand je dis tout et n'importe quoi. Le nerf de la guerre aujourd'hui pour l'entrepreneur, c'est quoi? L'argent. Et comment on fait aujourd'hui pour avoir de l'argent? C'est trouver des clients. Mais là, ce que tu expliques, c'est qu'il y a un client qui est toxique, qui est nocif, parce que justement, il te prend de l'énergie, c'est pas facturé en plus. C'est un moment où tu es au ski, c'est quelqu'un qui ne respecte pas forcément ton cadre. Ton cadre aujourd'hui, c'est de dire, je vais au ski pendant une semaine, j'ai réglé les choses, ne m'appelez pas, sauf s'il y a une urgence ou autre, et cette personne ne le respecte pas. Je pense qu'en fait, s'il t'appelait, s'il restait autant avec toi, c'est parce qu'il y avait un feeling, il avait confiance en toi, mais il ne respectait pas ce cadre. Il faut vraiment se séparer de ce genre de client, ce que tu as très bien fait, et c'est vraiment un environnement qui peut être nocif, en tout cas pour l'entrepreneur, d'avoir ce genre de client. Même s'il rapporte beaucoup d'argent, même si aujourd'hui financièrement c'est confortable, il faut vraiment penser que sur le long terme, ça peut être en tout cas destructeur et dévastateur. J'aurais quand même aimé avoir la réaction de ton mari, nous dire ce qu'il en a pensé quand il a su qu'il t'avait appelé sur la piste et que tu étais resté une demi-heure du coup en haut.
Ah oui, il était fou, hein. Il m'a dit, mais c'est pas possible. En plus, tu l'as prévenu. Comme on travaille à côté, il entend mes discussions à chaque fois au téléphone ou autre. Donc il me dit, mais là, c'est pas possible, faut que tu t'en sépares. Et je lui ai dit, oui. Effectivement, tu as raison, tu me l'avais dit. Jusqu'à présent, j'avais vraiment cette peur de me dire, est-ce que, mais en réalité, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'urgence, il m'appelle, il me dérange du coup dans un moment avec mes enfants. En plus, mes enfants étaient descendus, donc il aurait pu se passer n'importe quoi. Ils n'étaient pas si grands que ça. Hein. Ils avaient, je crois qu'ils devaient avoir, ma fille devait avoir 7 ans et puis mon fils, du coup, 4 ans de plus. Donc, ils n'étaient pas non plus très, très grands. Et bon, heureusement, il ne s'est rien passé, tout s'est bien fini, etc. Mais voilà, il y a vraiment eu le déclic où je me suis dit, il faut que je choisisse des clients qui ont les mêmes valeurs que moi, qui respectent. Quand je ne suis pas disponible, après, quand il y a une urgence, il y a une urgence, il n'y a pas de souci. Mais quand je ne suis pas disponible et que j'ai prévenu et que j'ai tout anticipé, il faut aussi ce respect. Et malheureusement, certains ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas forcément méchant. Je pense que ce client n'était pas du tout méchant. Il était très gentil d'ailleurs. Mais voilà, il ne se rendait pas compte qu'il dépassait certaines limites.
On peut être très gentil, effectivement. Mais si on vient sonner chez toi à minuit pour le souper ou pour je ne sais pas quoi faire d'ailleurs, en prendre une douche ou autre, alors que ce n'était pas prévu, moi, gentil ou pas gentil, j'enverrais bouler cette personne. Et comme tu dis, il y a un cadre. Il faut vraiment respecter ça. Donc vraiment, 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 encadrez-vous avant d'encadrer vos clients pour savoir vraiment ce que vous voulez et avoir des clients, comme tu l'as dit Nathalie, qui nous ressemblent. Du coup, c'était le premier client à qui tu as dit stop. Donc là, on arrive sur une cinquième première fois où c'est le premier, du coup, prestataire à qui tu dis stop. Dis-nous en plus.
Exactement. Donc là, c'est plutôt avec la tribu digitale. Suite en fait à tous les problèmes de la Drid, j'ai dû faire pas mal de changements, notamment j'ai dû changer de marque parce que mes associés m'ont laissé tomber à ce moment-là. Enfin bon, bref, il y a eu pas mal de petits soucis. Donc j'ai dû complètement refondre l'entreprise, changer de marque, repartir sur un nouveau modèle, etc. Et donc j'ai eu une partie de l'équipe, une partie des prestataires qui m'ont suivi, la grande majorité. Et puis j'ai recruté en fait une nouvelle prestataire pour m'aider sur tous les sujets un peu de back-office, etc. Et puis, cette prestataire, chaque fois que je lui demandais des informations, de me donner où est-ce qu'elle en était, elle me disait « Ah, mais je veux pas te déranger avec tous les problèmes que tu as. » Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en plein dans les problématiques de la Drid, les problématiques juridiques, etc. Donc, c'est vrai qu'en même temps, j'insistais pas non plus pour avoir vraiment les éléments. Et puis, il s'avère que quand j'ai pu sortir de toutes ces problématiques administratives, je me suis remis en fait le nez vraiment dans l'opérationnel, en tout cas plus que ce que j'avais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle me facturait 4 jours de travail par semaine. Et en fait, elle travaillait 20-30 heures par mois.
Ok. Et comment t'arrivais à justement avoir ces métriques-là sur le temps passé par rapport aux résultats ?
Alors, tout simplement parce qu'un jour, elle vient me voir et elle me dit « J'ai besoin d'une demi-journée supplémentaire de travail par semaine. » Et donc là, je lui dis « Comment ça se fait qu'en 4 jours, tu n'arrives pas à tout faire ? Je comprends pas. » Je lui dis « Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les tâches que tu as besoin de faire sur cette demi-journée et qui ne rentrent pas ? Parce que dans ce cas-là, on réorganise, etc. » Et là, elle me dit, j'ai besoin de faire telle tâche. Alors, c'était une tâche qu'on fait tous les 3 mois au lancement d'un nouveau webinaire. Je lui dis, mais ça te prend 2 heures tous les 3 mois. Enfin, c'était même pas 2 heures, c'était une demi-heure, je crois, je sais plus. Donc, je lui dis, mais en dehors de ça, là, tu me demandes 4 heures par semaine de plus. Et là, elle me dit, non, mais tu me fais pas confiance, tu devrais me faire confiance, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille ensemble, etc.
Oui, donc elle se braque.
Et puis, à ce moment-là, je me suis souvenue d'une phrase que mon père me disait tout le temps quand j'étais plus jeune. La confiance n'exclut pas le contrôle.
Le contrôle, exactement, complètement.
Voilà, donc on peut totalement faire confiance à une personne, ça n'empêche qu'on peut aussi contrôler, surtout quand derrière c'est nous qui payons en fait les prestations, on peut contrôler. Et donc là, je me suis dit, je vais faire, donc j'ai passé un week-end entier, j'ai balisé mon week-end, et je me suis dit, je vais faire toutes ces tâches et je vais chronométrer toutes ces tâches, une à une. Si elles sont faites, par exemple, 10 fois, je vais la faire qu'une fois et je vais la multiplier par 10, etc. Et là, donc, j'ai passé mon week-end et en une vingtaine d'heures, 22 heures exactement, j'avais fait toutes ces tâches du mois.
Ok. Ouais, donc là, tu t'es rendu compte qu'il y avait anguille sous roche, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément. Bon, après, comme tu l'as expliqué, tu étais dans une période quand tu as fait appel à cette personne-là où il y avait pas mal de choses qui te préoccupaient. Et c'est ça qui est difficile, hein, quand on prend quelqu'un, que ce soit un collaborateur, un CDI, un freelance ou un prestataire avec qui on travaille. Tu l'as dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut vraiment cadrer les choses et surveiller. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas non plus envie d'être assimilé à une autorité type policière ou autre. Notre but, c'est vraiment de travailler en corrélation. Et c'est bien que tu expliques un petit peu ça pour dire que ce n'est pas parce que tu fais appel à un expert, à un prestataire, que derrière, le travail va être bien fait. Il faut vraiment être vigilant justement pour avoir les bons ingrédients et faire en sorte que la machine puisse tourner, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que là, alors moi, ce que je voulais mettre en avant, parce que je pourrais, tu vois, te dire, j'ai été victime d'une personne qui a été mal intentionnée, ou je suis même pas sûre qu'elle ait été mal intentionnée, mais en tout cas, qui est mal agi, etc. Mais finalement, je lui ai aussi, moi, laissé cette opportunité. Alors, de par toute la situation, mais je lui ai laissé l'opportunité de faire ce qu'elle a fait. Donc, je suis aussi responsable. Et donc, j'essaye maintenant de mettre en place des choses pour que ça n'arrive plus avec les prestataires avec lesquels je travaille, ou en tout cas les futurs, peu importe. Mais j'essaye en tout cas de me dire, finalement, si elle a pu le faire, c'est que moi, je suis responsable de lui avoir donné l'opportunité de pouvoir le faire.
J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Je le fais moi aussi. Quand j'ai un problème ou quand j'ai eu un problème avec un collaborateur, je ne rejetais jamais la faute sur le collaborateur. Je me remettais en question pour voir justement où est-ce que ça avait péché. Et je m'étais rendu compte que c'était par rapport à mon management ou d'autres sujets. Donc j'aime bien cette lucidité que tu as sur le côté... Je me remets en cause, c'est moi qui suis responsable, je lui ai laissé l'opportunité de, et c'est important pour justement comprendre les erreurs, entre guillemets, ne plus les refaire par la suite, mais on a tendance souvent à taper sur une partie, entre guillemets, mais à la finalité, les deux parties sont responsables, mais quand on est employeur, quand on est en tout cas à son compte, on a encore plus cette responsabilité de faire attention et c'est pas toujours évident à prendre en compte justement quand on se lance, parce que comme tu l'as dit et comme je l'ai dit aussi, quand tu fais appel à un expert, en général, c'est parce que t'as confiance et que tu te dis que le travail va être bien fait. Mais c'est pas souvent le cas et c'est ce que tu viens de nous prouver. Je te remercie en tout cas pour la simplicité de tes propos, de nous parler de choses pas forcément très sympathiques comme le contrôle que tu as pu avoir avec ton mari, avec la DRIT notamment. Mais c'est assez clair pour moi qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience sur la manière dont étaient gérés un petit peu ces organismes de formation. Donc, tu as pu m'enrichir, moi, à titre personnel. Je pense que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent également. Donc, merci pour ça. Petite question quand même avant de nous quitter. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Nathalie Grimaud, il y a quelques années, avant qu'elle devienne entrepreneur, 2011, 2017, l'année que tu veux, pour lui donner des conseils avant de se lancer dans le grand bain, dans la fosse au lion, comme on dit, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat?
Alors, je lui conseillerais déjà de se lancer, de se mettre en action, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que la procrastination, se dire « demain », et puis « demain », parfois, n'arrive malheureusement jamais. Et de sortir aussi, on a souvent tendance, lorsqu'on est salarié, c'est ce que j'appelle le confort de l'inconfort. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très confortable, on n'a pas forcément une entreprise avec laquelle on partage les valeurs, un manager qui comprenne aussi nos problématiques personnelles, parce que forcément, le personnel impacte le professionnel et vice-versa, d'ailleurs. Donc, on n'est pas forcément... Mais on a finalement ce confort, même si on est dans l'inconfort, de connaître sa routine, de savoir combien on va gagner à la fin du mois, de connaître ses collègues, etc. Donc, moi, je lui conseillerais avant tout de se lancer, de sortir de l'inconfort. Et puis, surtout, je conseillerais, et ça, c'est ce que je fais à toutes les mamans et tous les parents de la communauté, d'être suffisamment résilient, parce que des embûches, on en traverse tous, que ce soit professionnel ou personnel. On a tous plus ou moins des problématiques importantes à gérer. Alors, ça peut être complètement différent, des problématiques de santé, des problématiques financières, des problématiques de séparation, peu importe. Et en fait, maintenant, je me rends compte, celles qui arrivent le mieux, c'est celles qui n'abandonnent pas et qui ont vraiment la résilience suffisante pour dire, OK, il y a un problème. Je vais prendre ce problème, je vais essayer de le résoudre du mieux que je peux avec les informations que j'ai, parce qu'après coup, on se rend compte que c'est pas forcément toujours la bonne décision qu'on a prise, mais en tout cas, à l'instant T, c'est la bonne décision avec les éléments qu'on a autour de nous. De continuer et de ne pas se démotiver au moindre problème, parce que oui, on rencontre tous des problèmes, en fait.
J'aime beaucoup ces conseils et j'aime beaucoup cette conclusion, parce que tu parles vraiment de la réalité des entrepreneurs qui est semée d'embûches. Comme tu dis, c'est la difficulté au quotidien. Il faut vraiment comprendre la définition d'un entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes au quotidien. Il y a beaucoup de personnes que j'entends qui notamment évoquent le côté liberté financière, liberté d'entreprendre, de faire ce que l'on veut. Mais on fait ce qu'on veut quand on a une boîte qui tourne, quand on a justement cette stabilité qu'on a réussi à mettre en place, parfois au bout de quelques années. Alors au bout de quelques mois, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Donc la liberté financière, non, c'est pas ce que vous aurez quand vous allez vous lancer. Vous aurez un petit peu ce contrôle. On peut avoir la liberté à 14 heures d'aller courir si notre travail est fait, de reprendre l'activité en tout cas professionnelle à 19 heures. Tout est une question d'organisation, mais voilà, il y a des, comme tu dis, il y a plein d'embûches et il faut les enjamber et faire en sorte en tout cas d'être aligné aussi avec ses valeurs.
Exactement.
Merci encore en tout cas Nathalie pour ton implication, ta simplicité, puis d'avoir accepté surtout de te prêter au jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat.
Eh bien, merci à toi.
Et avec plaisir pour rediscuter et avoir un petit peu la suite, notamment de ton affaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée cette fois-ci. Et je vous dis donc à très, très bientôt. Merci à tous. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.